pouce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous magazine. Et aujourd'hui, nous allons parler alimentation dans la puce à l'oreille. Alimentation, agriculture, environnement. Mon invité, Jean-Luc Allais, maire d'Amel, vice-président à Douaisy Aglo, en charge de l'agriculture, de l'alimentation, des espaces naturels. Et puis également, on va le signaler parce qu'on parlera peut-être de l'insertion par la filière agricole, président de la mission locale, Jean-Luc Allais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu, on peut rapprocher le micro, il n'y a pas de problème, allez-y, voilà. Vous êtes venu aujourd'hui parce qu'il va se dérouler dans le Douaisis un événement important, deux jours de colloque dans le Douaisis autour de la question de l'alimentation, de la préservation également de l'environnement. Et si ça se passe à Douai, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que le territoire a depuis déjà pas mal de temps mis en œuvre une démarche qui débute simplement en 2007 avec ce qu'on appelait à l'époque la trame bleue, trame verte. Ça parlait pas à beaucoup de personnes, il a fallu l'expliquer. L'idée, c'était de se dire, il faut reconquérir les espaces naturels.
Il fallait effectivement reconquérir les espaces naturels et surtout faire en sorte que la population locale s'approprie les espaces naturels et comprenne bien leur importance, mais qu'en même temps, ce soit pas une charge et uniquement vu par le négatif, aussi que ce soit une source de plaisir. Ce qui fait que notre trame verte et bleue, ça a d'abord été des chemins de randonnée pour dire aux gens, voilà, promenez-vous, vous êtes dans la nature, respectez la nature. Et en faisant ces chemins de randonnée, on a permis de découvrir le territoire, de mieux comprendre les espaces dans lesquels on vivait. Et on a commencé, bien sûr, par l'Arlesie, puisque à l'époque, c'était dans le cadre du syndicat intercommunal de la région d'Arles.
Avec des richesses et des faiblesses, parce que ce sont parfois des zones très vulnérables.
Alors, ce sont des zones qui sont très vulnérables, bien sûr, mais qui sont aujourd'hui très respectées, qui sont aujourd'hui bien connues, et ça nous permet, en les connaissant mieux, d'édicter un certain nombre de règles, en général bien acceptées. On n'a pas de soucis aujourd'hui de non-respect de ces règles dans les zones naturelles, ou très peu évidemment, et ce qui fait que la population s'est vraiment appropriée à un certain nombre de secteurs. Il ne s'agit pas de mettre le territoire sous cloche, évidemment, on a un territoire où on vit, mais on vit avec des zones naturelles et on vit avec cette biodiversité qui est une richesse incroyable.
Aujourd'hui, près de 15 ans après, on mesure les progrès qui ont été réalisés, l'amélioration du milieu.
Alors, on mesure les progrès qui ont été réalisés. On est d'ailleurs en pleine évaluation très précise par un cabinet extérieur, mais par exemple des chiffres très simples. On a créé depuis 98, on a commencé en 98, mais on a créé 200 km de chemins de randonnée. Et ces chemins de randonnée, ce sont également des corridors biologiques qui relient un espace naturel à un autre et qui permettent ainsi à la faune et à la flore de se retrouver et d'aller d'un espace naturel à l'autre.
Alors, ça, c'était sur des endroits où on était sur des territoires publics, voilà, où la gestion de ces territoires relevait de l'intercommunalité. L'idée, c'était de se dire, ce qu'on fait là, ici, chez nous, ce serait bien également que ça fasse partout, y compris dans les villes, y compris chez les personnes qui travaillent la terre, on pense au monde agricole, et y compris chez l'habitant. Quand vous êtes intervenu la dernière fois sur cette antenne, un auditeur m'a appelé en me disant « je demande un droit de réponse ». Je lui ai dit « mais monsieur, vous n'avez pas le droit de réponse puisque monsieur Allais ne vous a pas interpellé directement ». Mais il disait « j'ai entendu monsieur Allais dire qu'une bonne partie de la pollution également dans les sols était due à l'usage domestique de produits dangereux ». Et cet auditeur me disait « c'est pas vrai, il faut arrêter de dire ça, le premier pollueur ça reste encore aujourd'hui le monde agricole ». C'était sa réaction, je vous en fais part.
Je ne suis pas d'accord et je confirme. Moi, je confirme qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça s'est amélioré puisqu'il y a des lois plus restrictives qui sont arrivées, à la fois pour les collectivités et pour les particuliers. On a trois catégories de gens qui polluent, mais on pollue tous. Moi, demain, tout à l'heure, quand je vais prendre ma voiture, je vais polluer. Nous sommes tous des pollueurs réels. Simplement, il faut arrêter et contrôler cette pollution, ou au moins la réduire. Les habitants polluent. Les habitants polluent lorsqu'ils utilisent des produits phytosanitaires dans leur jardin. Ils polluent lorsqu'ils brûlent des déchets à l'air libre. Bon, tout ça, maintenant, c'est réglementé, ça va beaucoup mieux. Les collectivités étaient de grosses polluants, étaient de gros pollueurs à travers justement tous ces produits. On voulait des trottoirs propres, on voulait des chemins propres, donc on y allait à force de pesticides et puis de fongicides et herbicides. Mmh. Et donc les collectivités étaient des gros pollueurs. Aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. Nos agriculteurs sont également pollueurs, comme nous tous, mais là aussi, et ce sont des professionnels, ce qui veut dire que cette pollution, elle est à la limite beaucoup plus maîtrisée chez les agriculteurs qu'elle ne l'était chez les particuliers. Et la consommation d'intrants, de produits encides, variés et divers, a fortement diminué, y compris chez les agriculteurs. Mais on est tous des pollueurs.
Voilà, il ne faut pas rejeter toujours la faute sur l'autre. Ce qu'il a fallu faire à ce moment-là, quand on commence à penser à tous les acteurs, c'est de les réunir. C'est de pouvoir s'adresser à chacun d'entre eux également. Ça a pris du temps et ça s'est décliné avec différents moments. D'abord, un premier guide qui paraît sur les circuits courts, les producteurs, la charte des circuits courts. Vous y êtes attaché en 2010-2011 et puis ensuite 2012-2013. La question de la restauration collective, c'est de se dire si des produits sont localement ici disponibles, il faut que la population puisse en profiter.
Alors, il faut que la population puisse en profiter parce que consommer local, ça a beaucoup d'avantages. Ça a un avantage sur la santé, puisque vous utilisez des produits qui sont beaucoup plus frais, donc plus chargés en vitamines et en minéraux. Ça a des avantages sur l'environnement, puisque ce sont des produits qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres et qui ont pollué l'atmosphère. Et ça a surtout des avantages sur l'économie locale, puisque vous payez le juste prix à l'agriculteur, que vous faites travailler des gens qui sont sur le territoire, et que l'argent que vous dépensez, il est réinvesti sur le territoire. Donc c'est 300% intéressant de consommer local.
Quand je me promène actuellement, moi je vois des fraises du Maroc qui sont déjà là. Il faut également apprendre la patience aux consommateurs. Attendez, ouais. Les fraises sur le territoire, elles vont arriver, mais ce n'est pas encore le moment.
C'est consommer de saison. Il faut consommer les produits de saison. Et tout ça, on l'a repris dans les différents guides qu'on a sortis. On a fait des conférences, on a fait des réunions avec des consommateurs pour leur expliquer qu'il faut consommer de saison avec des produits locaux. Il y a tout ce qu'il faut sur notre terrain. Non, vous n'allez pas trouver d'ananas, vous n'allez pas trouver de banane d'origine locale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus faire vivre les autres régions du monde. Mais tout ce qui peut être produit chez nous, il faut le consommer en priorité.
Voilà. Alors, il y a des communes qui se sont inscrites volontairement dans la démarche et qui ont été des communes pilotes sur le territoire d'Ouézi Agglo. On pense à Coincy, il me semble, et puis
Flin-les-Raches. Alors, on a eu plusieurs niveaux d'engagement des communes. D'abord, dans la restauration collective que vous avez évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, sur les 35 communes, 25 communes introduisent dans leur restauration scolaire des produits régionaux et des produits locaux en quantité importante, puisqu'en moyenne, on est arrivé, pour ces communes-là, à 50% de produits régionaux. Alors, régionaux, c'est région de France, bien sûr, puisque le Douaisis ne pourrait pas arriver à satisfaire, et de produits bio, au moins 25%. Donc là, on est même en avance par rapport aux demandes du président de la République.
Ça coûte plus cher.
Écoutez, ça coûte plus cher. Alors, moi, je viens d'avoir, sur la commune d'Amel, mon dernier appel d'offres, où on a consulté des fournisseurs de repas, puisqu'on n'a pas de cuisine centrale. J'ai exactement le même prix de mon fournisseur de repas, avec 50% de produits régionaux, dont 25% de bio, qu'avant, où j'étais beaucoup plus tolérant sur l'origine des produits. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix parce que c'est un effet de masse. Aujourd'hui, on est de plus en plus de communes à demander ça à des fournisseurs, donc eux, ils achètent davantage, et donc ça leur permet de maintenir les prix.
On peut produire du bio de façon suffisante pour répondre à l'ensemble de la demande, ou alors finalement que de favoriser le bio, c'est pas un petit peu également le détourner en se disant est-ce aussi bio qu'aujourd'hui que ce l'a été hier et que ce le sera demain? Comprenez le sens de ma question.
Bah, j'ai essayé de répondre. bio, c'est bio. Parce que ça ne peut pas être à moitié bio, trois quarts bio ou 25% bio. C'est quand vous avez un produit bio, il est certifié. Il a fallu 3 ans à l'agriculteur pour obtenir sa certification. Et tous les ans, il est contrôlé par un organisme neutre, par un organisme indépendant, pour vérifier que l'agriculteur ou le producteur continue à respecter les principes bio. Donc, quand vous êtes à bio, le produit, il est 100% bio. La différence entre le bio que vous consommez quand il est produit local et quand il nous vient d'Espagne ou du Portugal ou d'Italie ou d'ailleurs, c'est qu'en plus, il a fait les kilomètres. Il a fait les kilomètres. Et là, le bilan carbone, il est quand même nettement négatif. Donc, ce qu'il nous faut, c'est du bio local, du bio d'Oisy. Et là, nous en manquons cruellement.
Alors, l'idée, c'est de pouvoir en faire davantage. Il faut donc aider les agriculteurs à penser bio. C'est pas évident. Vous le disiez, 3 ans avant de pouvoir produire. Il se passe quoi pour ces producteurs pendant 3 ans? Ils ne travaillent plus, ils regardent les choses se faire. Et de quoi vivent-ils surtout?
Ils vont devoir modifier leur pratique culturelle. Et là, évidemment, c'est un gros problème, hein, une grosse incertitude. Voilà, dans le traditionnel, s'il y a un problème, bah, il existe une solution avec un produit chimique. Donc là, il faut trouver d'autres méthodes. Ce qui fait que nous, on a mis en place un certain nombre d'aides variées et diverses, hein, pas seulement financières, pour accompagner ces agriculteurs dans leur conversion.
Alors, c'est-à-dire que vous prenez en charge le manque à gagner, le temps de la transition?
C'est pas le seul problème. Le plus gros, c'est un problème, j'en parle après, mais le plus gros problème, c'est l'accompagnement technique et psychologique de ce passage en conversion.
De la formation nécessaire.
De la formation, de pouvoir échanger entre eux s'ils ont un problème. Et on a favorisé tout ça en finançant des techniciens de la Chambre d'agriculture et du Groupement des agriculteurs biologiques des Hauts-de-France qui sont sur notre territoire, que nous payons pour aider les agriculteurs qui se lancent dans la conversion.
Parce que ce sont également des appareillages, des outillages différents. Voilà, là on n'a plus besoin de ces avions qui épandent des produits dans les champs, mais besoin d'un autre traitement un peu plus mécanique avec des outils spécifiques. Et là il y a une CUMA qui s'est créée, c'est-à-dire collective de mutualisation d'agriculteurs pour l'usage de ces matériels.
Voilà, alors là on est très très content parce que l'évolution elle correspond bien à tous ces problèmes. Travailler ensemble, y compris pour le matériel, parce que le matériel, ça leur permet d'acheter le matériel en commun, puisqu'il ne sert que quelques jours par an. Effectivement, il est spécifique et il coûte cher, mais en même temps, ça leur permet de se réunir et de reparler entre eux et de parler entre eux. Donc nous, on va financer l'achat de matériel spécifique, en particulier, c'est tout ce qui sert au désherbage, le désherbage qui au vent était chimique, maintenant il doit être mécanique. Donc ça, c'est un matériel spécifique pour réduire les intrants, et on va financer tous ces appareils qui servent à réduire les intrants.
Alors, votre aide à la communauté d'agglomération, elle vient également auprès des agriculteurs qui n'ont pas encore franchi le pas, mais qui se questionnent sur leur pratique. C'est dans le cadre d'un programme appelé AgriCAD, par exemple. Alors, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. La terre travaille, la terre évolue, et d'une année à une autre, elle ne sera pas exactement la même. Proposez donc des analyses de sol pour savoir si il convient d'amender, dans quelle mesure chaque hectare qui sera cultivé.
Oui, depuis très longtemps, on faisait ça bien avant que la CAD n'existe, mais ce qu'on appelle les analyses de reliquats azotés, c'est-à-dire que chaque année on finance et on fournit, on produit nous le bureau d'études et le technicien qui va venir faire le prélèvement. On prélève de la terre, on fait l'analyse, on regarde ce qui reste comme azote, puisque là il s'agit de l'azote, de façon à ce que l'agriculteur sache combien il doit en remettre. Parce que la plante ne va pas manger tout l'azote qui a été mis, et s'il y a trop d'azote, ben l'azote s'en va dans la nappe phréatique, donc pollue la nappe phréatique, et là il faut 20, 30 ou 50 ans avant que cet azote en surplus ne soit éliminé. Donc on finance à 80% toutes ces opérations de reliquats azotés.
Tous les exploitants agricoles ont aujourd'hui recours à la canne le font systématiquement ou périodiquement, régulièrement ?
Alors, pas tous. Hein. On a, sur 180 exploitants agricoles recensés sur Douaisis Agglo, on en a 120 avec qui on travaille régulièrement. Alors après les autres, pour diverses raisons, parce qu'il y a eu des conflits avec la CAD, ou avec Douaisis Agglo, pardon, sur la création de certaines zones d'activité, parce qu'il y a eu des conflits d'hommes entre notre président ou entre moi-même d'ailleurs, et certains, voilà, après, chacun fait comme il veut, mais 120 sur 180, c'est quand même pas si mal que ça.
En termes de surface, ça fait quoi ? Parce que si c'est 120 petites exploitations et 60 immenses à côté, voilà, c'est pas la même donne.
On touche plus des trois quarts du territoire.
Voilà, c'est important.
Mais bien sûr.
Voilà, faut le situer. Parce que c'est vous qui l'avez évoqué, il y a le problème du foncier également qui est là, qui est un vrai problème. Parce que quand, généralement, une exploitation vient à que l'exploitant arrête, c'est généralement une grosse exploitation qui reprend cette petite exploitation. Et le problème pour l'installation, pour des personnes peut-être qui auraient des envies de faire de l'agriculture ou du maraîchage de façon différente, c'est compliqué de pouvoir accéder au foncier. Vous avez là quelque chose ? Est-ce que vous avez la compétence pour pouvoir orienter à ce moment-là ? Ou alors, c'est pas du tout du ressort de la...
Non, c'est que c'est pas du ressort, c'est qu'on n'a pas la compétence. Aujourd'hui, en matière de terres agricoles, seule la SAFER, qui est un organisme codifié, hein, a compétence pour préempter des terres et pour réserver des terres. Et effectivement, c'est tout le gros problème de l'agriculture française, mais pas seulement française, européenne, il est là. Aujourd'hui, dès qu'une terre se libère, dès qu'un agriculteur arrive à la retraite, ça sert essentiellement à l'agrandissement des autres. Ce qui fait qu'on a de moins en moins d'exploitations agricoles. On a des exploitations agricoles qui sont de plus en plus grandes, y compris dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et ce sont des exploitations agricoles qui utilisent un maximum de produits en intrants et en mécanique.
Et pourtant, tous les exploitants qui ont fait la transition nous disent « c'est raisonnable, on peut le faire, mais pas sur des grandes surfaces ». C'est-à-dire que là, il y a un point de blocage. On peut faire du bio, mais sur un nombre d'hectares incroyable, ce ne sera pas jouable.
Alors, sur un ordre d'hectare incroyable, peut-être pas, ça dépend ce qu'on appelle incroyable, mais là je vois, actuellement on a une conversion qui se passe très bien sur 150 hectares. Donc on est encore sur des surfaces qui ne sont pas négligeables. Ça a beaucoup d'avantages, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi il faut s'organiser, il faut de la main d'œuvre, il faut du matériel, mais c'est faisable.
Ces 150 hectares, c'est quoi ? Ce sont des zones qui, de toute façon, ne permettent pas de faire autre chose ?
Ah si, si, c'était des exploitants qui étaient déjà en activité, qui faisaient de l'élevage, qui ne s'en sortaient plus, et qui avaient, ou la solution c'était de travailler pour rien, ou de mettre la clé sous le paillasson, et qui ont choisi résolument d'aller de l'avant, parce que nos agriculteurs sont des gens courageux, sont des gens qui ont l'imagination, et ils ont décidé de se convertir à l'agriculture biologique. C'était pour eux la seule solution de rentabiliser leur exploitation en étant respectés d'abord aussi par la population. Et ça, aujourd'hui, ils arrivent en dernière année de conversion. Et pour rien au monde, ils ne reviendront en arrière. Ils en sont vraiment extrêmement heureux.
Voilà. Et puis, ils pensent également à leur propre santé, parce qu'on se doute que d'utiliser ces produits, même pour eux, il y a une mise en danger.
Bah évidemment, il y a une mise en danger. Quand ils utilisent ces produits, bah ils sont dans des cabines qui sont complètement fermées, ou alors ils sont dans des combinaisons de cosmonautes, hein, pour se protéger. Vous imaginez quand même que c'est pas toujours une bonne santé. Et la profession agricole paye un lourd tribut au cancer également. Hein.
Alors, le Douaisis partait de très loin, finalement. C'était un des mauvais élèves en termes de bio. Aujourd'hui, vous faites mieux que la moyenne régionale ?
Eh oui. Eh oui, là, et ça, on en est évidemment très fiers. En 2013, quand on a décidé de lancer un plan bio qu'on a appelé BioCAD, la culture biologique dans la CAD, on était à 54 hectares d'agriculture biologique, donc uniquement des petites exploitations, maraîchage. Aujourd'hui, en 2018, on en est à 250 hectares, c'est-à-dire qu'en 5 ans, on a multiplié par 5 la surface. Et d'ici à 2 ans, on en aura 200 hectares de plus et on dépasse aujourd'hui la moyenne régionale.
Alors, c'est-à-dire que ce sont les mesures qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission, le fait de favoriser le circuit court, la commande publique, qui font qu'il y a eu de la confiance du monde agricole pour vous suivre parce que le marché existait, qu'il n'était pas trop compliqué à mettre en œuvre.
Voilà, oui. On a favorisé le marché local à travers la vente des circuits courts. On a favorisé le marché régional à travers la restauration collective. On a favorisé le passage en finançant des accompagnements techniques. Et aujourd'hui, on va mettre en place des aides financières, parce que c'est très important de savoir qu'un agriculteur qui passe en conversion, pendant 2 ans, il perd de l'argent. Parce que pendant 2 ans, il diminue son rendement et il ne peut pas vendre au prix du bio parce qu'il n'a pas encore l'agrément. Donc il perd en moyenne 200 euros de l'hectare. Donc je vais proposer très prochainement à Douaisy Agglo, aux élus de Douaisy Agglo, de compenser à l'euro près ce qui leur manque, cette perte d'argent pendant les 2 années.
De façon immédiate, parce que les agriculteurs nous disent également, parfois on attend les aides qui nous sont promises bien longtemps, elles arrivent trop tardivement.
La différence, c'est que nous, on est une structure de proximité et que, comme les autres engagements qu'on a pris, comme les autres aides que l'on versait, cet argent sera versé dès... Enfin, je proposerai, parce que la décision n'est pas encore prise, qu'elle soit versée dès la première année pour les 2 ans pour lesquels elle va être due. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on perd de l'argent, on va faire l'estimation, et au cours de la première année, l'argent sera intégralement versé à l'agriculteur tout de suite.
Ouais, pas 20% et 80% après.
Non, tout de suite. Ça sera 100% tout de suite.
Voilà. Et puis, c'est vrai que y a au milieu de tout ça la règle des marchés publics, parce qu'on expliquait organiser la filière, c'est parfois compliqué. Il y a les appels d'offres. C'est quoi ? C'est penser dans un appel d'offres à dire qu'il faut que si c'est à destination d'un élève, il puisse aller visiter l'exploitation pour être sûr que ça reste local. Ce sont des astuces qu'il faut apprendre à manier, tout ça.
Ouais, il faut rester évidemment dans les règles du code des marchés publics. Alors on s'est fait assister par des bureaux d'études, bien sûr, qui sont spécialisés, qui nous ont permis aujourd'hui de trouver le moyen, ça existe, on est dans la légalité, n'allez pas demain me faire avoir une avalanche de recours juridiques, mais on est dans la légalité et on arrive comme ça à faire introduire des produits régionaux dans nos cantines scolaires. Oui.
C'est le travail mené avec Aprobio, ça, entre autres.
C'est ça, oui. Ouais,
qui est un organisme régional qui vous accompagne également dans cette démarche.
Oui, qui nous accompagne depuis une dizaine d'années, que nous finançons depuis une dizaine d'années pour favoriser cette introduction de produits. Ouais.
Lors de la conférence de presse que vous donniez, je vous questionnais quand même, et je vais le faire ici tout de même, il y a un lycée agricole sur le territoire du Douaisy. L'agriculture biologique, c'est pas encore au programme de formation des futurs responsables agricoles du territoire ?
Ben non, c'est quand même un peu surprenant qu'un lycée agricole qui dépend de la région, une région qui tient quand même un discours consommant local, et qui n'impose pas, qui n'arrive pas à convaincre ces lycées agricoles de former ses élèves et ses futurs agriculteurs à la bio. Mais je dois dire qu'on développe depuis un an, ça a été compliqué, mais enfin on développe depuis un an une collaboration très étroite avec le lycée agricole de Wagnonville, Biotech, qui est quand même extrêmement intéressante. Aujourd'hui on n'a pas encore au bout de cette coopération, mais on devrait sortir des produits extrêmement innovants. Je ne vous en parlerai pas davantage, on reviendra peut-être pour le faire, mais des produits extrêmement innovants de collaboration au profit de nos agriculteurs. Parce qu'il y a le lycée, ils ont aussi un centre de formation permanente qui est joint au lycée. Et là, on a quand même des ouvertures extrêmement intéressantes.
Quand on regarde l'ensemble des actions, finalement, ce qui amène aujourd'hui au projet alimentaire territorial, on va en parler. Donc le projet AgriCAD, BioCAD et AlimCAD, CAD à l'époque pour communauté d'agglomération du Douaisy, devenu Douaisy Agglo. C'est quoi ? Ça reste un programme agricole ou c'est un programme de santé au final ? Ça me semble plus un programme de santé.
C'est un programme de santé, bien sûr. C'est devenu un programme de santé. L'alimentation, santé et environnement. Les trois sont intimement liés et on sait que l'alimentation joue un rôle essentiel dans la qualité de notre santé.
Et ça reste également un projet économique, parce que derrière, il y a des producteurs, et ça, il ne faut jamais les oublier. On va parler un peu plus dans le détail de ce programme alimentaire territorial. On parlera également de ces 2 jours de colloque à Douai, et puis du tout dernier guide de la terre à la table, manger local, le guide du Douaisy, pour tout savoir. Mais avant tout ça, petite pause musicale, je vous propose un cocktail. Voici Juliette avec Rhum Pomme.
Dans mon petit bar qui paye pas de mine, j'étais tranquille, j'étais pépère, avec mes copains. un cocktail. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila Tagada, un Beaujolais, un Sauvignon Passion, un Baileys Fraise, un whisky Kirikiwi. Ils ont dû se tromper d'adresse, on dirait qu'ils ne pigent pas. C'est pas le Lutetia. Seulement voilà, par ces temps de crise, faut pas refuser la clientèle. Ni une ni deux, hop, j'improvise. Je vais leur en faire moi des cocktails. En v'là du rhum pomme, du viandoxon de rox, du sazano tabasco, du perno porto pruno, du guignolé, du bartisol menthol, du ricard poire, du whisky kirikiwi. D'autres clampins. Je leur ai servi mes créations. Il y en a aucun qui a vomi. Il y en avait même pour dire oh, c'est bon. Et c'est vraiment the place to be. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, c'est le défilé des vedettes. Je crois que j'ai trouvé la combine. Chaque jour une nouvelle recette. Je fais des rom-poms, des jeans grenadines, des vodkas Nutella, des tequila Tagada. Je fais du kirmir, du pif avec du sif, du desktop yop, du whisky kirikiwi, du malibu minidou, du pomerol vitriol, de l'eau de vaisselle Javel. Et ça, ça part comme des petits pains. Ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel, le mescal gasoil et mais ça c'est un peu... Il y en a qui sont restés coincés quoi, ils sont venus aveugles et tout. Bon, excusez-moi, est-ce que vous faites le picon oignon goudron? Hein? Il est pas bon, hein?
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Invité aujourd'hui, Jean-Luc Allais, vice-président à Douaisis Agglo, en charge de l'agriculture, de l'alimentation, des espaces naturels. Il est également maire de la commune d'Amel et puis président de la mission locale. Et on vous parle du programme alimentaire territorial, PAT, qui se décline sur le territoire. On a parlé de la transition du monde de l'agriculture vers le bio. Vous êtes également président de la mission locale. C'est une filière d'avenir, finalement. On peut faire de l'insertion, on peut trouver du travail dans cette agriculture-là.
Alors, il est évident qu'en matière d'emploi, on a vu tout à l'heure les avantages au niveau local, mais en matière d'emploi, l'agriculture biologique a besoin de main-d'œuvre. Elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, puisque beaucoup de choses se font à la main. Et on a, c'est l'explication, c'est, ça nous a permis de créer un groupement d'employeurs. On a créé, enfin, on a aidé à créer un groupement d'employeurs spécifiques qui existait d'abord ici dans l'Artois, autour d'Arras, et qui maintenant est implanté chez nous, dans le sud, dans l'Arlesie, et qui embauche une vingtaine de personnes sur l'Arlesie, ce qui n'est quand même pas si mal que ça, et qui travaille avec une dizaine d'agriculteurs. Donc on a effectivement là une source d'emploi, parce qu'aujourd'hui, en agriculture traditionnelle, 120 hectares, une seule personne suffit. Si vous passez 120 hectares en bio, c'est 6 emplois minimum à l'année. Il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, il faut qu'on y aille. Et pour le prouver, pour le démontrer, on a des exemples très précis. En plus, on met en place des structures d'insertion par l'emploi, grâce à l'agriculture. Enfin, d'insertion par l'agriculture. On a deux structures aujourd'hui. C'est la ferme des Vanneaux à Rovaranda, qui vient de se convertir au bio, et on va avoir sur le Raquet un jardin de cocagne, qui est une structure d'insertion par l'agriculture biologique.
Alors, ce sont des métiers qui, quand même, paraissent parfois durs, compliqués. Il faut également me redonner les lettres de noblesse pour que l'effort ait un sens et qu'on aime ce travail, il faut l'aimer.
Il faut l'aimer, il faut apprendre à l'aimer, en le connaissant davantage, il faut apprendre à l'aimer. Puis surtout, il y a dans le monde agricole encore des esprits de solidarité qui sont extrêmement intéressants pour des jeunes, puisque je parle surtout au nom des jeunes, mais aussi pour des moins jeunes également. Et c'est ça qu'il faut qu'on leur travaille aujourd'hui, parce que nous manquons de main-d'œuvre. On n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre. On n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre locale pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et on se tourne, par exemple, vers les migrants qui sont sur la zone de Douai, chez qui on trouve des candidats, puisqu'en général ils sont d'origine rurale, qui correspondent parfaitement aux besoins de notre agriculture, alors que sur le plan local, on a du mal à convaincre nos jeunes et nos moins jeunes. Effectivement, il faut se lever de bonne heure, il faut... Le soir, ben, on est fatigué, c'est clair. Il y a des périodes de l'année où il faut travailler 10 heures par jour, d'autres périodes où on a beaucoup moins de travail, mais c'est un travail quand même qui est extrêmement passionnant.
Voilà. J'ai un agriculteur dans le coin qui me disait « On reste quand même les artisans du ciel, parce qu'on compose avec la météo et puis on produit ici, mais rien de plus beau quand on le fait bien, que comme métier. » Douaisy Aglo qui a également signé la charte territoire sans perturbateurs endocriniens. Là, on entend régulièrement parler de ces perturbateurs endocriniens que l'on retrouve partout et puis qui forment en plus de sacrés cocktails parce que c'est un petit peu de ci, un petit peu de ça. On ne sait pas si on les respire, si on les boit, si on les mange, où ils sont. C'est quoi l'idée de la signature de cette charte et à qui elle s'impose, cette charte? Uniquement aux collectivités ou à l'ensemble des acteurs?
Elle s'impose à l'ensemble des acteurs, mais faut pas non plus être... dramatiser les choses et être trop anxiogène quand même, parce que sinon, y en a partout.
Oui, il y en a partout,
mais ça, on vient de découvrir. Il y a 5 ans, on ne parlait pas de perturbateurs endocriniens. Tout ce qu'on sait quand même, et nous, on n'a pas attendu après ça pour mettre en place des actions, c'est que tous les produits de synthèse, tous les produits chimiques en CID, on ne va pas refaire l'inventaire.
Et en IDE.
Ou en IDE, oui. Il faut les réduire. Il faut les réduire. Voilà, déjà, si on a ça en tête... Et si chacun, à son niveau, on l'a vu tout à l'heure, collectivité, habitants, entreprises, agriculteurs, fait l'effort de réduire tout ça, on va déjà résoudre une partie des problèmes. Là, aujourd'hui, en signant la charte, nous, Douaisy Aglo, on dit on va aller plus loin. Et on va aider les habitants, on va aider nos communes, on va aider nos agriculteurs à aller plus loin en montant un programme spécifique, territoire, sans perturbateurs endocriniens. Et donc aujourd'hui, comme on a un programme AgriCAD, AlimCAD et BioCAD, on va avoir un programme spécifique, réduisons les perturbateurs endocriniens, mais faisons-le ensemble, on a besoin de tout le monde.
Voilà, alors à chaque fois on pense quand même à des substances qui sont encore aujourd'hui autorisées, je ne peux pas vous faire rien. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? C'est que très vite sortir du glyphosate, ce sera déjà une première bonne chose?
Oui, moi, le glyphosate, ça devient un sujet récurrent. Je crois que ça devient un symbole, quoi. C'est un symbole du combat.
Ça focalise de trop, selon vous?
Ça focalise de trop, oui, parce qu'à côté, il y en a d'autres. Le glyphosate, aujourd'hui, est relativement peu utilisé. Il est encore. Et il est encore trop. On a prouvé sa nocivité. Mais il y a bien d'autres produits nocifs qui existent encore. Je crois qu'on va progressivement y aller. Il ne faut pas non plus qu'on se focalise sur le glyphosate et qu'on oublie le reste, quoi. Et le reste, c'est pas seulement des produits, bien sûr c'est des produits, mais c'est aussi les contenants de ces produits.
Alors le progrès aujourd'hui c'est quoi? C'est de trouver des autres façons de faire, des substituts naturels, sains. C'est là où doit aller le progrès, la recherche elle doit chercher là-dessus et les travaux doivent porter là-dessus.
Alors, il y a deux catégories de progrès, deux orientations. Il faut que des organismes comme l'INRA, par exemple, ou d'autres organismes de recherche, trouvent des produits de substitution à tous ces produits nocifs.
Le fait pas l'INRA actuellement?
L'INRA, je ne sais pas si elle le fait, mais peut-être pas suffisamment. On ne met pas assez le paquet sur la recherche. Parce que pour des professionnels, c'est dramatique. S'ils n'ont pas un produit de substitution, ils ne peuvent pas y aller. Mais aussi, au jour le jour, au quotidien, dans nos cantines scolaires, dans l'entretien de nos bâtiments publics, des produits à bannir et des façons de faire plus naturelles, et ça existe, des façons plus naturelles pour éviter la prolifération de ces perturbateurs endocriniens.
Voilà, faudra chacun faire un petit effort pour changer sa matrice, son mode de faire, se remettre en question, c'est de la sensibilisation également à faire au plus proche de chacun des habitants de ce territoire.
Tout à fait, aussi bien au niveau des professionnels, que des habitants eux-mêmes, bien sûr.
Ça lave mieux quand ça mousse et quand ça sent bon, c'est pas forcément vrai.
Pas vrai, non, c'est pas vrai.
Voilà, c'est ça, pas vrai. Il faut commencer à se mettre ça dans la tête. On va parler de ce guide on va passer à autre chose. De la terre à la table, je ne sais pas quel opus on est arrivé.
Quatrième.
Manger local, votre guide, il est disponible où? Dans les mairies du territoire?
Dans les mairies du territoire, chez les producteurs qui sont dans le guide, il y en a, je crois que c'est 45 producteurs, je ne sais jamais, parce qu'à chaque fois, il y en a un peu plus. Là, il y en a 8 nouveaux. Mais aussi chez les restaurateurs, il y a 12 restaurateurs qui ont signé avec nous la charte, s'engageant, et pas s'engageant, mais utilisant des produits venant de producteurs locaux.
C'est une balade gourmande dans le territoire,
ah oui,
on pourrait dire ça.
Voilà. La balade gourmande, elle peut se faire de producteur en producteur, et on aura des journées portes ouvertes comme tous les ans, mais elle peut aller aussi dans les restaurateurs. Voilà, on peut, ouais, il y a 12 restaurateurs, bah, si chaque mois vous allez une fois au resto, en un an vous faites les 12 restaurateurs qui utilisent des produits locaux.
C'est compliqué, si vous n'êtes pas là, ils ne sont pas capables par eux-mêmes, ou le producteur, ou le restaurateur, de se rencontrer. Il faut les inviter, oui. Ils ont besoin d'être accompagnés, ces gens-là.
Ils ont besoin d'être accompagnés pour être mis en valeur. Ils ont besoin d'être accompagnés pour se rassembler, pour parler entre eux. Puis quand ils commencent à parler entre eux, on ne peut plus les arrêter. Et donc là, ça prouve qu'on a raison. Nous, on est là pour inciter à, mais c'est eux qui font, en définitive. Et on est là surtout pour communiquer et faire savoir. Et donc, on a le guide, mais on a bien d'autres instruments de communication qu'on a mis à leur disposition. La signalétique directionnelle, par exemple, les communications dans la presse de Douaisy Aglo, les journées portes ouvertes, voilà, il y a un tas de communications que nous prenons en charge et où nous faisons leur publicité.
Pensez qu'aujourd'hui, on commence à davantage réfléchir au moment de passer à table à ce qu'on fait. Vous sentez là l'évolution des consciences ou pas encore? Parce qu'il y a également quelque chose qui est là, et on voit ces magasins discount parfois proposer des produits venus de loin, mais pas chers, parce qu'il y a un réel pouvoir d'achat également de la part des consommateurs.
Alors, il y a une conscience chez les habitants. Alors, évidemment, lorsque vous achetez un produit de qualité, un produit qui est frais, il coûte un peu plus cher. Sauf que vous aurez moins de gaspillage alimentaire. Et on travaille donc sur le gaspillage alimentaire. Un produit frais, un produit de saison, un produit local, il va conserver plus longtemps. Ensuite, ce qu'on veut aussi, puisque notre grande orientation, c'est de permettre à chaque habitant d'accéder à une alimentation de qualité et d'origine locale, chaque habitant, c'est y compris les plus démunis. Donc on travaille beaucoup avec les centres sociaux et surtout avec les épiceries solidaires, éventuellement avec les Restos du Cœur, pour amener ces personnes les plus défavorisées à utiliser des produits locaux et surtout à savoir les cuisiner. C'est dramatique, ça. C'est dramatique. Les gens aujourd'hui ne cuisinent plus. Les produits tout faits, les plats tout cuisinés, qui sont pleins d'additifs, pleins de conservateurs, ils ont la cote. Non, il faut savoir, il faut réapprendre à cuisiner.
Voilà, et se donner le temps. Également, parce que...
Le temps, oui, mais le temps, on l'a aujourd'hui. On n'a quand même plus des charges horaires comme par le passé. Donc...
Ce sont des choix.
Ce sont des choix, voilà.
Ouais. Voilà, ce sont des choix. Il y a d'autres acteurs sur le territoire. Je pense à tous ceux qui gravitent autour de l'économie sociale et solidaire. Les AMAP, la ruche qui dit oui, je ne sais pas si elle est présente sur le territoire.
Oui.
Voilà, comment vous travaillez avec ces acteurs-là, sont des partenaires?
Bien sûr, sont distributeurs. Alors, la AMAP, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une AMAP qui était basée d'ailleurs à Aubert-Chicourt et qui est en train de transférer son siège social sur Douai. Mais on travaille aussi avec des drives. Le drive est un nouveau mode.
Le drive à la ferme.
Le drive à la ferme, voilà. Il n'y a pas que les drives chez Leclerc ou à Auchan. Il y a aussi le drive à la ferme qui sont bien structurés, bien organisés. Ils sont référencés dans notre guide. Et vous pouvez commander, comme à tous les drives, vos produits et ils vous sont livrés comme les autres produits. Donc on utilise bien tous les vecteurs, les boîtes de distribution, là, les distributeurs automatiques. Ça aussi, ça se développe un peu partout. Ça permet aussi de diffuser des produits locaux.
Voilà, parce que quand on dit, finalement, ce qu'on nous propose, c'est de refaire comme avant, c'est peut-être de refaire comme avant, mais y apporter également du service supplémentaire.
Alors, avec les moyens d'aujourd'hui, et avec des services supplémentaires, et une meilleure connaissance de ce que l'on mange. Ouais.
Que se passera-t-il à Douai en fin de mois d'avril? Lundi 29 avril, séminaire coopéré entre communes et intercommunalités dans le cadre du projet alimentaire territorial. C'est le titre de cette journée, ça s'adresse à qui cette journée?
Alors, c'est une journée nationale. C'est-à-dire que c'est Douai qui a été choisi par l'ensemble des intercommunalités qui sont engagées dans une politique alimentaire. Alors, on est tous regroupés dans une structure qui s'appelle Terres en Ville, et donc ils ont choisi collectivement de venir à Douai parce que on fait figure de référence dans de nombreux domaines. Alors ça, on en est aussi très, très, très fiers. Alors c'est essentiellement ouvert aux élus, aux responsables associatifs, aux responsables de crèches, aux responsables de restauration scolaire, mais c'est ouvert aussi à tous les habitants qui vont venir y chercher des idées, des moyens pour améliorer le quotidien. C'est ouvert à tous. Et il y aura des conférences, il y aura des colloques, il y aura des stands, il y aura un tas d'éléments d'information. Ça va durer toute la journée. On a un soutien national, bien sûr, par l'État, par l'ADEME aussi. Et donc, ça devrait être une très belle journée, et en tout cas pour nous, une consécration de ce que nous faisons.
Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir réexpliquer ce qui se passe sur le territoire, mais également de regarder ce qui se passe sur notre territoire et peut-être voir si certains ont trouvé à lever des freins que vous pouvez vous rencontrer.
Bien sûr. Quand on est dans une même structure avec des territoires différents, ça permet d'échanger. Nous, on a beaucoup appris des autres. Les autres apprennent de nous. On échange, ce sont des échanges d'expériences qui sont faits. Chaque territoire est différent et donc chaque territoire doit trouver des solutions, et ça aussi c'est extrêmement enrichissant. On ne va pas réinventer ce qui a été fait à Lorient ou au Havre ou à Montpellier pour parler d'interco avec lesquels on est fort en relation.
Ah, c'est parfois compliqué, même pour l'habitant, et surtout vu de l'extérieur, que de penser qu'une partie de l'arc du bassin minier est un territoire agricole. C'est pas... Voilà. Il y a également cette idée-là qu'il faut encore... Oui, on est un espace agricole aujourd'hui avec une agriculture forte.
Avec une agriculture qui est très forte, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'elle a évolué. La chance de l'arc minier, c'est qu'il y a une population importante qui est une clientèle potentielle, et c'est ce qui explique que les circuits courts, ça fonctionne bien.
Voilà. On parlait des plats transformés tout à l'heure. Le monde de l'agroalimentaire, il est là, il est avec vous, ou pas et pas uniquement que les laiteries, mais je pense à tous ceux qui vont fabriquer. On a ici à Vitry-en-Artois le petit cuisinier qui est installé, qui a ramené ses emplois ici quand il a déménagé des Nabomont, il me semble. C'est un secteur de transformation important également. Comment vous arrivez à travailler avec ces gens-là qui parfois salent un peu trop leur plat?
Oui, alors on n'a pas la chance d'avoir sur le territoire de Douai Aglo d'industrie de transformation alimentaire. L'agroalimentaire, on a rien du tout. Et donc on n'a pas de contact direct avec eux. Mais à travers, par exemple, la restauration collective, où on impose des règles aujourd'hui beaucoup plus draconiennes, ça nous amène à rentrer en contact avec eux. Ils sont très ouverts parce que sur le plan économique, ils ont intérêt à y aller puisque les communes l'exigent. Et comme le département fait la même chose avec les collèges, comme le lycée fait la même chose avec les régions, aujourd'hui, l'avenir pour tous ces producteurs de repas, c'est l'utilisation de produits régionaux et de produits bio. Ils ne vont pas pouvoir y échapper pour des raisons économiques.
Donc, cette journée vous permettra également peut-être de rencontrer des acteurs de cette filière qui n'est pas présente sur le territoire, mais peut-être présente sur d'autres territoires.
Tout à fait. Ils seront invités, en tout cas, et on espère qu'ils y viendront.
Séminaire, donc c'est à Gaillan Expo que ça se passe, séminaire national, coopérer entre communes et intercommunalités dans le cadre du projet alimentaire territorial. Et puis c'est un moment également où vous allez donner des guides, expliquer à tous les gens intéressés. Alors vous le rappeliez, depuis la crèche jusqu'au monde de l'éducation, des kits explicatifs et des kits de formation, parce que c'est important ça aussi.
Ouais. On a beaucoup d'actions sur la formation des professionnels. On a commencé avec les professionnels de la petite enfance. On va continuer avec les professionnels des cuisines centrales. On a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là.
Et ça se passera le lendemain?
Alors, le lendemain, on va pouvoir effectivement...
Le 30 avril, c'est ça?
Le 30 avril, oui. C'est deux journées. Ça nous donne un gros travail pour ces deux journées. Mais là, on est sur un salon à dimension européenne, puisqu'on a la Belgique qui est à nos côtés, les provinces belges et flamandes, wallonnes et flamandes, qui viennent avec nous sur les outils pédagogiques, c'est-à-dire comment faire passer les messages, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des convictions et des messages, encore faut-il les faire passer. Donc on va présenter tous ces outils pédagogiques qui existent, comment les utiliser, comment les mettre à disposition des professionnels qui ont besoin de les connaître.
Voilà, parce que les enjeux, de toute façon, sont ceux du territoire à côté, et à côté, on arrive en Belgique, quoi.
Bien sûr, on est transfrontalier quand même.
Là aussi, c'est en entrée libre, tout le monde peut y aller. Si on est animateur d'une structure, je pense...
Bien sûr. Je pense que les professionnels seront plus intéressés, mais tout le public pourra venir y chercher des idées, puisque on est chez nous. Voilà, vous avez des enfants, vous avez aussi à faire preuve d'une certaine pédagogie pour leur faire manger une pomme, parce qu'il faut l'éplucher, la manger. C'est plus facile prendre un produit tout fait qui n'a plus qu'à croquer dedans, quoi. Voilà. Donc d'éviter certaines boissons. Donc chaque habitant a aussi un rôle pédagogique à jouer auprès de ses enfants, par exemple. Donc tout le monde est concerné par la journée, effectivement.
Souvenez-vous de cette action de ces militants qui avaient démonté un fast-food, voilà, pour dire la malbouffe, ça suffit. Il y en a de ces fast-food sur le territoire. Il faut composer avec tout le monde parce qu'eux, ils nous disent, mais attendez, je crée de l'emploi. Il y a un nombre d'étudiants du territoire qui travaillent chez moi. Tout est une question de mesure. Il faut trouver la bonne recette, si on continue sur la métaphore alimentaire.
Oui, il faut trouver la bonne recette. Il faut respecter tout le monde. C'est pas en y allant, en démontant un coup de bulldozer qu'on va résoudre les choses. Il faut arriver à convaincre. Moi, je suis un partisan de la concertation territoriale. On est en permanence en concertation, en discussion. Nos équipes sont en permanence en discussion avec tous ceux qui veulent s'intéresser à la question. Alors, on a des réunions où on est quelquefois plus d'une centaine. Tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins tout le monde s'écoute et tout le monde peut faire un pas vers l'autre. Et en essayant de tirer vers le haut, je pense qu'on y est arrivé. En une dizaine d'années, on a quand même fait de très gros progrès. On est en train de faire l'évaluation. On a demandé à un bureau d'études extérieures de venir faire l'évaluation de notre politique. Nous, on ne veut pas la faire nous-mêmes, sinon on serait content de ce qu'on a fait, évidemment. Sinon, on se tirait une balle dans le pied. Donc on a demandé à un bureau d'études extérieures de venir faire l'évaluation. Bon, on voit bien que les premiers résultats de cette évaluation qui n'est pas terminée, que c'est extrêmement positif.
Voilà, ça prend du temps, il faut se donner le temps. Il y a 20 ans de ça, vous lanciez sur le territoire du CIRAM les après-midi à la ferme, avec ou du théâtre ou du chant. L'idée était de faire rencontrer producteurs locaux et consommateurs. Aujourd'hui, ça a irrigué l'ensemble du territoire, que de penser qu'on pourra mieux manger, mieux vivre et avoir le choix, surtout parce que c'est également une question de choix. Moi, je n'ai pas envie non plus de jeter la pierre vers les consommateurs occasionnels du fast-food. Je pense qu'on peut peut-être de temps en temps y trouver son plaisir.
On peut y trouver, ça répond aussi à un besoin, bien sûr. Mais ce qu'il faut, comme vous l'avez dit, il faut prendre du temps. On est dans un domaine où on ne change pas si facilement ça que les habitudes, mais il faut aussi une volonté politique. Et je crois que la chance qu'on a à Douaisis-Aglo, c'est d'avoir un président, Christian Poiré, qui est extrêmement engagé là-dessus. Il sera d'ailleurs présent au Festi Planète sur le thème. Il est allé à Paris signer la charte sur les perturbateurs endocriniens, très engagé là-dessus, et d'avoir des élus communautaires qui me suivent à l'unanimité lorsque je fais des propositions. Tout le monde est intéressé par cette politique parce qu'on sent bien que c'est une politique de santé publique qui touche à l'environnement, qui touche au développement économique et qui donc est essentielle en matière de développement local pour notre territoire.
Voilà, et qui ne se fait pas au détriment justement du développement économique où on nous dit également il faut créer de l'activité, donc on a besoin encore une fois de foncier. Ce sont des choses qui arrivent à cohabiter.
Ce sont des choses qu'on essaie de faire cohabiter, qui ne sont pas toujours faciles à faire comprendre. Mais effectivement, quand on crée une zone, allons-y, la zone où il y a Amazon, où on a pris 150 hectares de terres agricoles, seulement derrière, on a créé des milliers et des milliers d'emplois en CDI ou en CDD qui s'ajoutent au moment des fêtes, mais ce sont des milliers d'emplois qui ont été créés dont les gens du Douaisis ont besoin.
Les terres qui seront converties au bio, elles seront, elles, plutôt sanctuarisées.
On peut dire
que ça, on n'y touchera jamais.
On n'y touchera jamais.
Il ne faut jamais dire jamais, je sais.
On n'engage que ceux qui sont là aujourd'hui. Mais on a une vision maintenant à 2040 des futures zones d'activité. Donc on a sanctuarisé effectivement un certain nombre de zones. Puis on sait quelles sont les zones qui, d'ici à 2040, seront susceptibles d'être transformées en zones d'activité.
Les projets de conversion, vous en avez une idée? Si on revient sur le bio, on va conclure là-dessus. Aujourd'hui, combien d'exploitants ont manifesté leur intérêt à peut-être franchir le pas demain?
Alors, le nombre d'exploitants qui ont... C'est 7 ou 8 pour l'instant, ce qui fait qu'il est pas mal. Mmh. On est aujourd'hui à 254 hectares. Moi, j'ai mis la barre en 2020 à 500 hectares. C'est le challenge que j'ai donné à mes équipes et que je m'impose à moi-même. C'est-à-dire qu'on va falloir en trouver, falloir les trouver. Mais je suis persuadé, notez-le, là, vous êtes plus jeune que moi dans un coin de votre tête, 500 hectares en 2022, pardon. Je ne veux pas dire 2020. 2022, c'est 2022.
Voilà, l'émission est enregistrée. On n'oubliera pas
de me la sortir
en 2022, d'aller fouiller dans nos archives. Merci, monsieur Allais. Voilà, donc bon colloque. Encore une fois, pendant ces deux jours, journée nationale puis journée européenne, pour bien comprendre ce qu'est un plan alimentaire territorial et comment tous les acteurs d'une filière se réunissent pour penser, consommer sainement, pour rester en bonne santé. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. Vous revenez quand vous le voulez.
Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, d'avoir permis de dire tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure.
Et peut-être prochainement avec la mission locale pour parler également insertion, parce que là aussi je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avec de nouveaux dispositifs qu'on espère et qu'on attend, ouais, et qui devraient arriver prochainement sur le territoire. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à bientôt.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.